Ingénu Saxancourt, ou La femme séparée, par Restive de la Bretonne. Publié avec une introduction par Gilbert Lely. Introduction. 1. Paul Lacroix a pu croire qu'Ingénu Saxancourt a été rédigé par Agnès Rétif, qui savait écrire et qui, à l'exemple de sa mère, composait des vers et des pièces de théâtre. Mais comme le fait remarquer M. Henri Bachelin dans les notes qui accompagnent son édition des œuvres de Rétif, il est sans vraisemblance qu'une jeune Agnès ait été capable de cerner de traits aussi durs, aussi accentués, la monstrueuse figure d'Auger Moresquin. Depuis la publication en 1889 d'un journal de Rétif, Mes inscriptions, que Paul Lacroix ne pouvait connaître, le problème de la paternité d'Ingénu Saxancourt se trouve définitivement résolu. En effet, dans ce journal, Rétif a noté les étapes de la composition de son roman qu'il écrivit entre le 18 mars et le 29 juillet 1786. L'édition originale d'Ingénu Saxancourt se présente en trois volumes in duodécimo comptant respectivement 248, 240 et 260 pages, y compris pour chacun d'eux le titre et les feuillets préliminaires. Voici le libellé exact des pages du titre. Ingénu Saxancourt ou La femme séparée. Histoire propre à démontrer combien il est dangereux pour les filles de se marier par entêtement et avec précipitation malgré leurs parents. Écrite par elle-même. Première partie, deuxième partie, troisième partie. À Liège et se trouve à Paris chez Maradan, libraire rue des Noyers, numéro 33, 1789. Cette édition originale est probablement la plus rare de toutes celles de Rétif. La majeure partie du tirage a-t-elle été pilonnée dès le premier temps de la mise en vente à la suite de la plainte portée devant la police par le gendre de Rétif, Auger, publiquement flétri dans Ingénu Saxancourt sous le nom de Moresquin? Dans le tome 15 de ses Nuits de Paris, Rétif nous fait lui-même le récit de l'interrogatoire qu'il eut à subir, à la suite de cette plainte, de la part du commissaire de Saint-Louis-la-Culture. Nous ignorons si Auger put obtenir des autorités de justice la destruction de l'ouvrage dans lequel il était mis au pilori. Mais, dans la négative, une autre circonstance peut expliquer également la rareté de l'édition originale d'Ingénu Saxancourt. On possède la preuve que les exemplaires de ce livre ont été recherchés systématiquement et détruits vers le milieu du siècle dernier par les descendants de Rétif et d'Auger, peu flattés de la publicité faite à grand bruit autour de leur famille dans le journal Le Siècle par un absurde roman feuilleton d'Alexandre Dumas dont Rétif et sa fille étaient les héros. Ils intentèrent eux-mêmes en janvier 1855 un procès en diffamation contre l'auteur des Trois Mousquetaires. Il faut attendre jusqu'en 1922 pour trouver une seconde édition d'Ingénu Saxancourt. Elle forme le tome 2 de l'œuvre de Restive de la Bretonne, publiée dans la collection Les Maîtres de l'Amour, Paris, Bibliothèque des Curieux, in octavo. Et elle reproduit, dans son intégralité, le texte de 1789. La troisième édition, qui précède immédiatement la nôtre, figure dans le tome 5 de l'œuvre de Restive de la Bretonne, publiée par M. Henri Bachelin aux éditions du Trianon. Paris, 1931, in octavo. Dans cette édition, M. Henri Bachelin a supprimé les trois pièces de théâtre insérées arbitrairement par Rétif dans son roman pour engrossir le volume, de même que l'ode et la lettre de Piron. Il a supprimé également les histoires adventices des trois jeunes filles, camarades d'Ingénu Saxancourt. 2. Le cas de M. Henri Bachelin nous amène à faire connaître dès maintenant les suppressions que nous avons cru devoir pratiquer nous-mêmes dans la présente édition du livre de Rétif et à justifier notre procédé. Nous allons indiquer tout d'abord les éléments dont est constitué cet ouvrage disparate. Avis de l'éditeur. C'est la préface de Rétif. Première partie. Elle débute par le récit des déportements de la mère dénaturée d'ingénue. Puis l'on voit l'épouse adultère se débarrasser de sa fille en la plaçant en apprentissage chez une marchande de mode du quai de Gèvres. Là, ingénue se lie d'amitié avec trois ouvrières, Caroline Lebrun, Adeline Cordeau et Amélie Schell. Chacune de ces jeunes filles raconte l'histoire de sa vie. Après une transition forcée, se placent les quatre actes d'une comédie Ariette de Rétif, La marchande de mode ou Le loup dans la bergerie. Deuxième partie. Quelques pages liquident la situation précédente, ingénue chez la marchande de mode. Enfin, le véritable roman d'ingénue Saxancourt commence. Son horrible mariage avec Moresquin. Le récit est interrompu par une ode de Piron sur le prix de l'arquebuse et par une lettre du même Piron à M. Jehanin l'aîné. La parole est rendue à ingénue pendant une cinquantaine de pages. Et voici une autre pièce de théâtre, La matinée du père de famille, en un acte. Puis le roman se poursuit jusqu'à la fin de la partie. Troisième partie. Le roman s'achève sans interruption jusqu'à une troisième pièce de Rétif, Épiménide. Après cette comédie en trois actes, on trouve deux post-scriptums qui ne sont plus de la main d'ingénue. Il relate sa fin tragique et le châtiment de son assassin. Moresquin a brisé les vertèbres de sa femme, il est arrêté et déporté aux îles. On aperçoit immédiatement le caractère factice de l'insertion de trois pièces de théâtre dans un roman. Leur suppression pure et simple ne donne donc pas lieu à des explications, non plus que la suppression de l'ode et de la lettre de Piron. Mais les autres coupures que nous avons pratiquées dans le texte même appellent une justification. Avis de l'éditeur. Puisque nous avions évincé les pièces de théâtre, il nous fallait évidemment couper dans cette préface les quelques lignes où Rétif tente de légitimer leur présence au milieu de la confession de son héroïne par son souci de reposer l'esprit du lecteur et de calmer des idées terribles. Première partie. Nous n'en avons conservé que l'exorde, 6 lignes. Le récit des infidélités conjugales de la mère d'ingénue et les histoires des trois petites marchandes de mode offrent certes de l'intérêt, mais ils sont dans la manière habituelle de Rétif et font en quelque sorte double emploi avec les contemporaines. Et surtout, ils sont étrangers au sujet proprement dit et font débuter de façon languissante un roman unique dans l'œuvre de Rétif de la Bretonne par son acharnement dans la cruauté. Deuxième partie, pas d'observation. Troisième partie. Nous avons arrêté notre texte avec le récit d'ingénue, écrit par elle-même et qui ne contient que des faits véridiques. Les post-scriptums, en effet, sont de pure invention et tendent uniquement à déjouer l'indiscrétion du lecteur, puisqu'en réalité, ingénue, Agnès Rétif, ne mourut qu'en 1854 et Moresquin, Auger, ne fut pas envoyé aux îles, mais condamné à mort et exécuté en place de grève. On voit que nos suppressions ne sont jamais arbitraires et que nous avons laissé subsister un tout rigoureusement cohérent puisque, depuis les préliminaires de son mariage avec Moresquin jusqu'à la comédie finale d'Épiménide qui précède les post-scriptums romancés, nous avons donné la confession intégrale d'ingénue Saxancourt sans autre coupure que celle de l'ode et de la lettre de Piron, de la matinée du père de famille et des quelques phrases de transition qui les amènent. Nous n'ignorons nullement qu'il est peu recommandable de procéder à des retranchements dans les ouvrages littéraires. Le respect que l'on doit à la subjectivité s'accommode mal de tels procédés. Mais en l'occurrence, il nous a semblé qu'ingénue Saxancourt ne pouvait que gagner à cet élagage et que la statue des époux infernaux débarrassé des ronces qui l'entourent, en jaillirait plus pur dans sa perversité. 3. les événements contenus dans le roman d'Ingénu Saxencourt sont authentiques. On possède la clé de tous les personnages, même secondaires, et de ceux auxquels il est fait seulement allusion. Et, avec l'aide de La femme infidèle, publiée en 1788, et du journal posthume de Rétif, Mes inscriptions, on peut vérifier la plupart des circonstances de ce drame de la vie conjugale. Monsieur Saxencourt, c'est Rétif lui-même, sous un masque des plus fades, et que, naïvement, il croyait avantageux. Ingénu Saxencourt, c'est Agnès, sa fille. Elle était née à Auxerre, le 10 mars 1761, et avait vécu sa première enfance à Sassy. Agnès épousa, en mars 1781, Auger, dit l'Échiné, désigné dans le roman sous le nom de Moresquin, et qui logeait rue de la Mortellerie, aujourd'hui rue de l'Hôtel de Ville. Il tentait d'assassiner, le 30 juin 1793, sa belle-mère, Agnès Lebègue, femme divorcée de Rétif, et, comme nous l'avons déjà dit, il fut condamné à mort et exécuté en place de Grève. Agnès Ingénu, femme séparée, se remaria la même année que celle de l'exécution de son tortionnaire avec Louis Vignon, dont elle eut un fils, Victor, lequel, de concert avec son demi-frère, Auger Rétif, attaqua en diffamation Alexandre Dumas, dans les circonstances indiquées plus haut. Agnès vécut, nous le savons déjà, jusqu'en 1854, ayant ainsi atteint l'âge de 93 ans. Un problème se rattache à l'examen des principaux personnages d'Ingénu Saxencourt. Rétif a-t-il été l'amant de sa fille? Au nombre des calomnies de Moresquin Auger, si outré qu'on le prit pour un fou, et qui fit frémir Monsieur Le Tourneur, le premier traducteur de Shakespeare en français, figure en effet une accusation d'inceste à l'encontre de Rétif Saxencourt. Il faut dire, en dépit de l'indignation de Rétif et du portrait vertueusement conventionnel qu'il trace de lui-même dans son roman, que rien n'est plus vraisemblable que l'accusation de son gendre. Il n'est que de s'en rapporter à son roman érotique, L'Anti-Justine, où il prétend opposer aux peintures cruelles de son ennemi, le marquis de Sade, les délices incestueuses d'un père et de sa fille. Or, dans un tel ouvrage, non dépourvu lui-même de cruauté, la fille de l'auteur, conquête ingénue, c'est justement Agnès, l'héroïne d'Ingénu Saxencourt. Quant au mari de cet infortuné, le monstre Auger Moresquin, il est représenté sous le nom de Vinaigre. Et si l'on interroge les documents chronologiques de Mes inscriptions, on trouve des notes qui ne laissent subsister aucun doute, sinon, sur la conjonction sexuelle entièrement accomplie de Rétif Saxencourt et d'Agnès Ingénu, du moins sur les réactions physiologiques que la vue de sa fille provoquait en lui. 14 novembre 1785, la nuit, M. ad int, en marge, Emissio ad intuitum Agnetis, entre parenthèses, éjaculation à l'aspect d'Agnès. Et 6 jours après, vue Agnès et E.M. 4. Puisqu'aussi bien, avec le problème de Rétif incestueux, nous venons de pénétrer dans le domaine de ces bizarres penchants qu'inspire la nature, nous y demeurerons un moment pour tenter d'esquisser le tableau de la psychopathologie sexuelle de Moresquin tel qu'il résulte de la lecture d'Ingénu Saxencourt. Le tronc vigoureux du sadomasochisme d'un tel personnage, unique dans la littérature romanesque, sauf, bien entendu, dans les ouvrages mêmes de l'auteur de Juliette, s'embellit, on le verra, d'arborescences complémentaires telles que le voyeurisme et l'exhibitionnisme, au milieu desquels brillent ces deux fruits, non morbides par définition, mais en l'occurrence, nourriture élective du sadisme, nous voulons dire l'irrumation et la sodomie hétérosexuelle. Dès son enfance, Moresquin bat les servantes de sa mère, les mords, leur enfonce à l'improviste des épingles dans la chair. Il provoque la mort de son maître à danser en le faisant choir au moyen d'une corde tendue dans un escalier obscur. Plus tard, Il menace une chambrière de l'accuser de vol si elle refuse de faire l'amour avec lui. Épouvantée, la jeune fille est contrainte de se livrer. Le soir de son mariage, quand Moresquin demeure seul avec Ingénu, ses premières approches se traduisent par une agression. Il lui déchire les manches et le tour de gorge et, en dépit de ses larmes, achève le déshabillage avec la même brutalité. Ensuite, il se jette sur elle et la sodomise immédiatement. 3 jours durant, il dédaignera la virginité de sa femme et l'orifice anal demeurera son seul objectif érotique. L'élection de la sodomie, qui revêt l'acte d'une couleur plus violente que dans les rapports ordinaires, est, dans le cas de Moresquin, une manifestation de son sadisme. Souvenons-nous que les bénédictins de Sainte-Marie-des-Bois, dans la Justine du marquis de Sade, ne manquent jamais de posséder d'abord de cette sorte toutes les jeunes filles qu'ils viennent de ravir à leur famille. En maints endroits de son récit, les euphémismes et les points de suspension d'Ingénu dissimulent mal les exigences sodomiques de son époux ainsi que le penchant de celui-ci pour l'irrumation. Cette dernière complaisance, lorsqu'elle est exigée dans un esprit tyrannique, devient un acte avilissant pour la femme qui s'y soumet. « Fais ton devoir, lui dit Moresquin. » Et ailleurs, Ingénu s'exprime en ces termes, « Il me donna des leçons de... » Ces détails ne peuvent se rendre. Il souilla toutes les parties de mon corps. J'en fus quitte à la dernière infamie par un soulèvement du cœur. Les coups et les blessures dont est victime Ingénu ne se comptent pas. Il la frappe si outrageusement qu'elle en a le visage ensanglanté pendant 3 semaines. Enceinte, il la ligote et lui donne des soufflets et des coups de pied dans les reins. Il lui cingle le visage avec une baguette et lui fait jaillir le sang à côté de l'œil. Il la traîne par les cheveux dans l'escalier. Un matin, il la pousse hors du lit conjugal, puis se lave et la piétine, etc. Moresquin imagine pour sa femme une autre source de souffrance en lui faisant manger les restes des assiettes de ses invités, notamment ceux de l'horrible champ d'épines dont le visage est couvert d'abcès. Dans l'ordre moral, le sadisme de Moresquin se manifeste par les constantes humiliations qu'il inflige à Ingénu. Il lui fait décroter les souliers de ses compagnons de débauche et leur commande de la tutoyer. Elle doit vider en leur présence la chaise percée sur laquelle il vient de s'asseoir. Il l'insulte devant la servante et la fait dîner sur le parquet, cependant qu'il est à table. Il la traite de putain, de salope et de vermine. Il l'accuse d'avoir une maladie vénérienne et lui souhaite de crever. « Tu seras catin quand je te le dirai, s'écrie-t-il, sage quand je le voudrai. Tu n'existes pas pour moi. Ta famille t'a abandonné, tu m'as été vendu comme une négresse. » Parmi les tortures morales qu'il inflige à Ingénu, il ne faut pas oublier les épisodes où Moresquin possède sa femme devant les témoins oculaires ou auditifs, ce qui nous permet également de le ranger au nombre des exhibitionnistes. Ses amis n'étant qu'à 2 pas en train de dîner, il entraîne par la violence Ingénu à leur enceinte et s'assouvit sur elle dans une alcôve vitrée. Ensuite, il la ramène devant eux dans un désordre vestimentaire qui ne manque pas de les exciter sexuellement. Une autre fois, ayant encore 3 de ses amis à dîner, il suit sa femme dans la cuisine et là, saisi de la manière la plus obscène. Comme elle résiste, il lui enfonce une épingle dans le bras. Elle doit céder, malgré la présence des amis de Moresquin qui sont venus en hâte, effrayés par le bruit. Invité à la campagne chez les parents de Fromentel, Moresquin n'ignore pas que celui-ci couche dans la chambre voisine de la sienne, et c'est à dessein que, faisant l'amour avec sa femme, il emploie des expressions obscènes pour lui intimer ses volontés sexuelles, excité qu'il est par l'idée que Fromentel doit l'entendre. Et à l'exhibitionnisme devait forcément s'associer en Moresquin le voyeurisme, son contraire. Plus tard, caché dans un cabinet, il observe et force Ingénu d'observer Fromentel en train de faire l'amour. « J'étais entre ses mains un être passif, écrit Ingénu, de l'existence duquel il disposait au gré de ses passions, Avec plus de despotisme, le colon le plus cruel du Nouveau Monde ne dispose de sa négresse. Mais ce qu'on a vu n'était pas le comble du malheur pour moi. Le monstre va devenir jaloux. Cet homme vil et cruel va feindre la jalousie pour me déshonorer, pour me rendre plus soumise à ses abominables vues sur moi. 5. Il va feindre la jalousie. Ici, la psychologie de Rétif apparaît en défaut. Et si nous avons cité cette dernière phrase, c'est parce qu'elle va nous permettre d'aborder sans transition le masochisme de Moresquin, qui ne pouvait manquer par définition de s'apparier à son sadisme, ces deux tendances coexistant sans appel chez un même individu, en dépit de la prédominance tantôt de l'une, tantôt de l'autre, derrière laquelle se dissimule son contraire, aux yeux de l'observateur non pénétré de la loi freudienne des ambivalences. Moresquin ordonne à un génie de se prostituer à son directeur de bureau. Il employa les expressions les plus révoltantes, écrit-elle, m'ordonnant les plus grandes infamies, les détaillant, et me forçant d'en faire un indigne apprentissage avec lui. Il se montre jaloux de Fromentel, mais en même temps agit exactement comme s'il désirait que ce jeune homme fît l'amour avec elle. Un soir, à peine au lit, Moresquin lui déclare, en la livrant à sa brutalité, qu'il ne tenait qu'à elle de répondre à sa passion, en se figurant qu'elle tenait Fromentel entre ses bras. Une autre fois, il semble témoigner d'une jalousie en apparence positive. « Garce, putain, tu es monté chez Fromentel, je le vois à la rougeur de tes oreilles. » Et, se jetant sur elle, « Je trouverai d'autres preuves, mais tu seras rondiné ce soir avec un autre rondin que celui qui t'a fait tant plaisir. » Ces dernières paroles de Moresquin sont très importantes, parce qu'elles évoquent l'organe du rival, notion essentielle du problème de la jalousie dans les liens qu'elle semble présenter parfois avec l'homosexualité inconsciente. Ailleurs, Moresquin se met à genoux devant sa femme, l'appelle sa déesse, son adorable putain. Et une nuit où, à l'étonnement d'ingénu, il jouit d'elle sans profanation, il lui parle après l'acte de Fromentel et veut connaître le nombre de fois que celui-ci l'a possédé, témoignant ainsi qu'une espérance de délectation masochiste a prédominé cette nuit-là sur ses pulsions sadiques habituelles. Le lendemain, il recommence à pédiquer sa femme et lui déclare « Voilà ce que je ferai tous les jours. Si tu deviens grosse, je saurai que tu es une libertine. » Mais l'observation royale réside dans l'épisode où l'on voit Moresquin prostituer sa femme à plusieurs amants dont la patiente elle-même ne peut déterminer le nombre. Nous laisserons au lecteur le soin de se reporter à ce morceau. « Il va feindre la jalousie !» s'est écrié ingénu. Moresquin le croit sans doute lui-même, et il serait bien étonnant qu'ingénu soupçonnât que sa jalousie est réelle. Cependant, elle n'est nullement feinte. Et ce qu'il est essentiel de souligner, c'est qu'elle se manifeste chez Moresquin par le souhait, lequel n'en est pas moins indubitable pour errer à la frontière du conscient et de l'inconscient, par le souhait permanent d'être trompé. Ainsi, le masochisme de notre héros s'inscrit à la source authentique du comportement qui a engendré le mot par lequel on a désigné cette psychopathie. En dépit de son apparat sadique, l'attitude de Moresquin envers ingénu, lorsqu'il s'agit des autres hommes, est celle même du chevalier de Sacher-Masoch, insérant des annonces dans les journaux pour provoquer des rendez-vous érotiques au bénéfice de sa femme. Ajouterons-nous que la jalousie amoureuse, qu'elle soit positive ou retournée, peut apparaître chez certains hommes, est-ce le cas chez Moresquin, comme une manifestation non seulement de masochisme, mais aussi d'homosexualité refoulée. Les jaloux de cette sorte s'identifient inconsciemment à la femme infidèle, et s'ils pouvaient voir clair dans leur cœur, ils énonceraient ainsi leur délire. Il est indispensable que celle que j'adore se donne chaque jour à de nouveaux amants, afin que moi, qui suis elle-même, je puisse m'enivrer sans cesse de ma parfaite ignominie. 6. Sade a porté un jugement sévère sur Rétif de la Bretonne. Air inonde le public, il lui faut une presse au chevet de son lit. Un style bas et rampant, des aventures dégoûtantes, toujours puisées dans la plus mauvaise compagnie. On n'a jamais le droit de mal dire quand on peut dire tout ce qu'on veut. Si tu n'écris comme R, que ce que tout le monde sait, dusses-tu, comme lui, nous donner 4 volumes par an, ce n'est pas la peine de prendre la plume. Idée sur le roman, éditeur Usanne, 1878, pages 31 et 38. Ces lignes de l'auteur de Juliette appellent 2 observations. Si, à l'époque du marquis de Sade, Rétif n'écrit que ce que tout le monde sait, peut-être est-ce pour nous l'apprendre en un temps où l'on ne le sait plus. En effet, l'œuvre de Rétif nous offre une admirable résurrection du passé au moyen d'une infinité de détails d'autant plus précieux qu'ils concernent des classes sociales n'ayant laissé que peu de témoignages dans la littérature romanesque contemporaine. Les références aux mœurs populaires et bourgeoises que l'on trouve dans Manon Lescaut ou dans La vie de Marianne ne sont qu'occasionnelles chez Prévost et Marivaux, tandis que dans les livres de Rétif, elles apparaissent sous la forme d'un bilan dressé dans un esprit systématique. Le mérite de cet auteur n'est pas mince d'avoir prophétisé implicitement l'importance de 2 classes sociales encore dédaignées par ses confrères et dont l'une, la bourgeoise, devait quelques années plus tard affirmer sa suprématie. Du point de vue littéraire, nous dirons presque poétique, on peut en inférer que le génie de Rétif, en dépit de la médiocrité de son langage, réside dans cette odeur spécifique de terroir parisien du XVIIIe siècle qui émane de ses ouvrages et, par-delà la science historique, nous restitue la 4e dimension de ce qui est disparu. Le style de Rétif est bas et rampant. Il faut reconnaître en effet que, même dans les réflexions personnelles qui accompagnent ces récits, la forme de Rétif de la Bretonne est presque toujours incorrecte et embarrassée. Cependant, le reproche de Sade est injuste s'il s'adresse à l'auteur réaliste qui est tenu de prêter à ses héros plébéiens le langage de leurs conditions. Mais il nous appartient peu aujourd'hui de nous montrer difficiles. Au XVIIIe siècle, le plus médiocre littérateur, que dis-je, une prostituée comme la Charpillon dans ses billets à Casanova, n'écrivait-il pas avec plus de pureté que tous les prix Goncourt de ces derniers lustres? Quoi qu'il en soit, outre l'imperfection manifeste de son style, on peut regretter chez Rétif l'économie maladroite de ses récits et surtout un ton déclamatoire imité de son maître Rousseau. La raison pour laquelle Ingénus accent court occupe un rang particulier dans l'œuvre de son auteur, c'est que non seulement cet aphorisme de M. Nicolas « Il ne faut pas mentir, qui n'écrit que des mensonges s'avilit soi-même » a présidé avec rigueur à sa composition, mais aussi que les tares habituelles de Rétif s'y trouvent le plus souvent atténuées. Quand on a refermé ce livre, comment oublier désormais l'image d'Agnès Ingénue, 1000 fois pédiquée à l'âge de 20 ans et livrée pendant des heures par son propre mari, non sans volupté pour elle, à la frénésie de plusieurs hommes. Mais c'est surtout grâce au personnage de Moresquin que le roman de Rétif mérite d'être rangé au nombre des ouvrages qui accroissent, pour l'âpre émerveillement de notre pessimisme, la connaissance tragique de l'être humain. Dans ce personnage, dont la monstruosité féconde ne le cède qu'au seul héros de Justine et de Juliette, le phénomène sadique, accompagné de son contraire inséparable, quoique plus ou moins déguisé, le masochisme, s'inscrit, comme nulle part ailleurs, avec la netteté et l'évidence de ces lésions anatomopathologiques des vieillards qui font, au cours des autopsies, l'admiration toujours neuve du médecin. Gilbert le lit.